Europe 1, 15h, 16h.
Dis-moi ce que tu chantes.
Didier Barbelivien.
Les luthiers de la rue de Rome à Paris se souviennent tous de sa silhouette nonchalante quand ils franchissaient la porte de leur échoppe. Cet homme-là savait jauger une guitare au doigt et à l'œil. Pour beaucoup de jeunes auteurs-compositeurs de mon espèce, il a été un phare dans notre adolescence. Et pour ma part, il l'est resté à tel point qu'en l'écoutant, je ne me suis jamais senti vieillir. C'est donc avec un max de plaisir, apprécier l'allusion, que j'accueille aujourd'hui en votre nom sur l'antenne d'Europe 1, Monsieur Maxime Le Forestier. Bonjour Maxime.
Bonjour Didier.
Ça te rappelle un truc, les luthiers de la rue de Rome ?
Oui, mais je n'ai pas souvenir d'y avoir mis les pieds.
Tu vois, alors c'est ça d'être un poète, c'est que je t'invente une vie que t'as pas eue.
Non, j'y passais souvent parce que j'étais au lycée Condorcet, parce que ma sœur était au conservatoire rue de Madrid, et parce que ça faisait rêver. Non, moi mon luthier c'était Jacques Favino.
Je me souviens, Favino.
Qui était rue de Clignancourt au numéro 9. Et c'est lui qui m'a fait ma première guitare de luthier, qui était une 12 cordes, puisque ça se faisait sans micro à l'époque, il fallait du son, il fallait du volume. Et puis après, il m'a fait la merveilleuse 6 cordes rouge.
Je m'en souviens de celle-là.
Que j'ai toujours.
J'espère bien. Bon, on va écouter ton premier choix. C'est pas un mince guitariste non plus. Francis Cabrel, Les bougies fondues et on en cause.
Sur mon grand canapé, allongé sous la lune, j'avais les bras croisés, j'attendais la fortune entre deux cloisons vides et une ampoule nue, la poésie. Ma vie allait passer paisible et sans histoire, mais tout était trop vrai, et j'ai préféré croire aux formes dessinées dans les bougies fondues, la poésie où il y en a jamais eu. Une barre d'immeubles me barre l'horizon, ceux qui l'ont dessiné, toujours pas en prison, l'enfant peut griffonner, un graffiti de plus, la poésie. Sur le trottoir mal fait, qui se fend et qui craque, comme on marque un arrêt, on se voit dans les flaques, un morceau d'au-delà, à nos pieds descendus, la poésie où il y en a jamais eu. La vie est un concours où personne ne gagne, un chemin qui s'enroule autour d'une montagne, on se retrouve en haut, tous le moment venu, la poésie. J'ai vu l'homme passer armé comme à la guerre, mourir c'est son projet, il va falloir s'y faire, on dansera plus tard, au calme revenu, la poésie où il y en a jamais eu. Main rescapée sous des tonnes de pierre, aux flocons envolés de leurs boules de verre, on pense que le ciel serait intervenu, la poésie. Du tigre prisonnier, elle écarte les grilles, les 10 mètres carrés pour lui et sa famille deviennent à chaque pas une immense étendue, la poésie où il n'y en a jamais eu. Regarde, elle a 10 ans et voit comme elle est belle et pourtant elle ne sort de chez elle qu'avec l'âme et le corps cachés sous des tissus, la poésie. En retournant chez moi, j'ai croisé des fanfares, des rangées de tambours, des grelots, des guitares, elle marchait devant ses longs cheveux défaits, la poésie où il n'y en aura jamais. Radio, la jolie ritournelle, elle est triste sans lui, il est triste sans elle, et flash les radars sur les sentiers battus, la poésie. Pourtant la rue vibrait, encombrée de voitures, murs, le soleil s'accrochait aux angles des toitures et chaque arbre prenait des poses de statue, la poésie où il n'y en a jamais eu. Si un jour je croisais au hasard d'un visage le chanteur que j'étais dans les bals de village, on se regarderait comme deux inconnus, la poésie. Il me dirait sûrement, t'as dû en voir du monde. Il se pourrait pourtant qu'à la fin je réponde, c'est celui que j'étais qui me manque le plus, la poésie où il y en a jamais eu. M'abîmer les yeux sous la voûte céleste, savoir où sont marquées les heures qu'il me reste et chercher pour demain ce qu'il y a de prévu, la poésie. Comme des vérités, je n'en trouvais aucune sur le grand canapé allongé sous la lune. J'ai cherché dans les bougies fondues la poésie où il y en a jamais eu.
Maxime, d'être venu avec ça dans tes bagages déjà.
Ça va être belle, hein.
Je me dis, on adhère tellement à tout ce qu'il raconte qu'on se demande pourquoi on ne l'a pas écrite, celle-là. Hein ?
Oui, quand tu m'as demandé quelles étaient mes chansons préférées, d'abord, j'ai voulu choisir des chansons qui avaient moins de 10 ans, parce que sinon...
On en a tellement.
On en avait trop. Et puis, aussi des chansons que j'aurais aimé écrire. Bien sûr.
Ça t'est souvent arrivé, ça, ce sentiment, d'entendre un truc et de dire oh non, celle-là, pourquoi j'ai pas fait ça ?
Oui, 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 ça, ouais, hein. Ça m'arrive, oui, bien sûr. Et en même temps, que ce soit Cabrel, que ce soit Souchon, que ce soit, ils ont une patte.
Ouais,
que
c'est
j'ai
vrai.
Pas,
et puis, je me dis, c'est comme les love stories, quand ça devait pas se faire, ça se fait pas.
C'est
si tu veux que je te dise, quand c'est passé, c'est passé. Mais on a vu quand même dans nos vies, toi et moi. Et il en parle, Francis. Le monde qui nous entoure souvent répéter ses mêmes erreurs. Non ? T'as pas ce sentiment ?
Oui, on peut raconter sa vie de façon très drôle aussi.
Oui, non mais...
C'est-à-dire, les belles chansons, elles sont en général tristes.
C'est ce que je défends depuis toujours.
Voilà.
Moi qui suis un type plutôt gailleron dans la vie, je n'aime que les chansons tristes.
Bien sûr, moi aussi. Et la plupart des gens aussi... Et puis c'est aussi des chansons qui leur appartiennent, parce que les chansons tristes passent peu en radio, et donc c'est des chansons qu'on garde pour soi.
Ouais, bah, c'est pour ça qu'on fait des albums.
Voilà.
Parce qu'il y a des trucs... Tu vois, par exemple, là ça me revient là, comme ça, là, maintenant, je me souviens d'un album de toi, je ne sais pas si c'est, tu vas me le dire, hein, parce que j'ai la mémoire qui flanche, comme disait la chanson. C'est sur l'album Saltimbanque qu'il y a les lettres.
Oui.
Voilà. Bon, bah, tu vois, quand on s'achète l'album Saltimbanque, c'est une bonne raison déjà pour Saltimbanque, puis on tombe sur les lettres.
Oui.
Et là, on se dit, là, c'était une très très bonne raison de l'acheter. Tu sais, ça a l'air bête, mais quand tu dépenses de l'argent pour acheter un disque ou un livre, ou comme ça se faisait avant les 33 tours en vinyle, t'es quand même content de trouver dedans des trucs dont personne ne te parle.
Oui, et puis aussi dans les concerts. Moi, je mets un point d'honneur à... Évidemment, les tubes, je les chante, mais à mettre des chansons que les gens ne connaissent pas, parce que s'ils ont pris leur voiture, qu'ils ont acheté une place et qu'ils se sont déplacés, qu'ils sont venus s'asseoir pendant 2 heures, c'est pas pour regarder la télé. Donc, c'est pour découvrir des choses.
Je suis sensible à ce que tu viens de dire pour les concerts. On n'est pas nombreux à penser à ça. Au fait que souvent, ils font de la route, les gens qui viennent nous voir. Même si c'est pas loin, 20 km, 30 km en province quand même. Ils s'habillent, ils arrivent à l'heure. Et il faudra qu'ils mangent en sortant. Enfin, c'est tout un...
C'est tout un cérémonial.
Ouais, je trouve.
Et je pense que s'ils viennent, c'est pour ressortir de la salle avec quelque chose de plus. Et si c'est quelques chansons qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ont découvertes, c'est une bonne chose.
J'espère qu'on leur donne ça. Et dans la foule et de ça, parce que Francis, il n'arrête pas il s'en sert comme un gimmick. Tu penses que la poésie peut sauver le monde, toi ?
Non.
Non, hein ?
Non, non.
C'est juste, ça nous sert à passer des bons moments.
Elle peut adoucir la douleur.
Eh oui, heureusement. Avec cette phrase, c'est peut-être ma préférée de la chanson, enfin, il y en a quand même quelques-unes.
Oui,
il y a quelques-unes. Mais c'est celui que j'étais qui me manque le plus. Psh, 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 psh. Ouais. Nostalgie, quand tu veux nous faire mal, nous poignarder là. Ah.
Ouais, c'est bien dit. Hein.
C'est vrai pour toi, ça, quelquefois ? Il te manque, ce Maxime Le Forestier, des places à 10 francs, de la petite fugue.
Non, j'éprouve pas de nostalgie. Moi, je suis heureux dans mon âge.
Oui, tout le temps.
Pas tout le temps, on n'est pas tout le temps heureux.
Non, mais...
Non, ma jeunesse me manque pas.
Et dis-moi, la fameuse petite fugue là, que j'évoquais, que tu chantais avec Catherine, ta sœur. À l'époque, vous aviez fait un rapport avec la petite cantate de Barbara ou c'était tombé comme ça ?
C'était tombé comme ça, je crois. Mais tu sais, c'était un compositeur israélien qui s'appelait Nahum Raiman qui avait donné 400 chansons à un éditeur. Il avait juste écrit la ligne mélodique et l'éditeur qui était Régis Tallard avait confié à son jeune frère Robert le soin de faire mettre des paroles. Puis bon, Robert, il était un peu glandeur.
Beaucoup même, on peut
même
dire.
Beaucoup. Et 8 jours avant la visite de Nahum Raiman à Paris, il n'avait toujours rien fait. Donc il a demandé à tous les copains, à Lama, à moi, à ma sœur, et tout ça, est-ce que vous pouvez mettre des paroles sur un certain nombre de musiques, parce que je ne voudrais pas avoir l'air d'un con. Et on a fait 4 ou 5 chansons comme ça avec Catherine. Lama en a fait aussi.
Ça vous a fait du stock pour après ?
Ça nous a fait du stock pour après. Elles n'étaient pas toutes bonnes, hein, mais la petite fugue était pas mal.
Bah, la preuve, on s'en souvient encore. On est avec Maxime Le Forestier sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1, dis-moi ce que tu chantes, par Didier Barbelivien.
Maxime Le Forestier dans Dis-moi ce que tu chantes, je te dirai à peu près qui tu es. Et là, j'adore ce choix. Hein. C'est sur le dernier album de Souchon. Ouais, c'est ma préférée. Ça s'appelle Debussy, Gabriel Fauré.
Elle joue sous des lambris dorés. Debussy, Gabriel Fauré. Vert de Venise, cuir de Russie. Gabriel Fauré, Debussy. Des pavanes qui s'écoutent assis, Gabriel Fauré Debussy, toujours à leur piano fourré, Debussy, Gabriel Fauré. Nous nous sentions accaparés, Debussy, Gabriel Fauré, Berry, Chakali, Dead Johnny. Gabriel Fauré Debussy. Nos princesses blondes décolorées. Debussy, Gabriel Fauré. Nous écoutent que dans les taxis. Gabriel Fauré Debussy. Sonate en ré, si maman si, Gabriel Fauré Debussy, qui donc a pu nous séparer, Debussy, Gabriel Fauré, c'est vrai faubourg Saint-Honoré, Debussy, Gabriel Fauré, c'est loin de Memphis, Tennessee. Gabriel Fauré Debussy. cessé de nous ignorer. Debussy, Gabriel, Fauré ont fait de la musique aussi. Gabriel, Fauré, Debussy. J'irai en jean troué à Pleyel. Debussy, Fauré, Gabriel, venez en robe longue à Bercy. Gabriel, Fauré, Debussy.
Alain Souchon, Debussy, Gabriel Fauré. C'est signé Alain Souchon, bien sûr. David McNeil, en partenariat pour les paroles. Et la musique est de Pierre Souchon. Je trouve, personnellement, que c'est la partie de ping-pong vocabulistique la plus réussie de l'année.
Ah oui, absolument. Absolument.
Comment on arrive à écrire ça à deux ? Faut se balancer des trucs.
Je sais pas, je pense que c'est du ping-pong. Oui. Ouais. Ça s'est pas fait par Internet, parce que Souchon, il est pas très Internet.
C'est étonnant.
Donc à mon avis, ils sont mis chacun d'un côté d'une table. Moi, ce que j'admire là-dedans, c'est la richesse des rimes.
C'est beau. Hein.
Déjà, mais ça, c'est de la signature de McNeil. Mm. McNeil est un rimeur impénitent. Et puis, la musique de Pierre Souchon, j'aime bien, parce qu'il écrit comme son père. Je l'ai senti ça très fort chez les enfants d'Alain, parce que je le sens aussi avec mon fils Arthur. Ils nous poussent à écrire. Mmh. Ils veulent pas qu'on s'arrête. Et je trouve ça très beau et très intéressant, parce qu'ils pourraient faire leur musique à eux. Non, ils font la nôtre, mais je pense que c'est par amour.
C'est vrai. Dis-moi, tu as une idée là-dessus sur l'éternel débat qui opposait Béart et Gainsbourg, art mineur, art majeur, la chanson...
J'étais là.
Le jour où ça a swingé.
Non, moi, je pense que c'est pas l'art qui est majeur ou mineur, c'est l'artiste. Mm. C'est-à-dire qu'il y a des cuisiniers qui sont des grands artistes et des peintres qui font des croûtes épouvantables.
Et toi, quand tu étais ado, tu t'es trouvé confronté à ce petit combat entre la musique classique
Absolument.
Et Chuck Berry. Dans
Absolument.
Ta famille, on disait à la Maxime, tu vas pas faire...
Ma sœur Anne, qui était professeure de conservatoire, qui est décédée l'année dernière, elle m'a fait découvrir Nougaro, elle m'a fait découvrir les frères Jacques, parce que son prof d'harmonie au conservatoire leur faisait étudier les arrangements vocaux des frères Jacques, tellement c'était bien fait.
Ah ouais, c'était bien fait.
Mais l'ensemble du monde classique avait pour la variété, comme il disait, un mépris absolument profond. C'est vrai. Qui est, je crois, en train de s'estomper. Il y a de plus en plus de ponts entre les différentes façons de faire de la musique. C'est écrit dans Debussy, Gabriel Fauré. On fait de la musique aussi.
C'est ça. Ouais. Être influencé par Bach ou Bacharach. Tu vois,
ouais.
Tout est possible.
Tout est possible.
On se retrouve dans un instant, toujours avec mon invité. C'est un plaisir, Maxime Le Forestier sur Europe 1.
Europe 1, 15h, 16h.
Dis-moi ce que tu chantes.
Didier Barbelivien.
Maxime Le Forestier sur Europe 1. Et quand je m'entends le dire, pouf, je me revois quand j'avais 16 ans, que je t'accompagnais quand tu faisais Jacques Paoli ou Jacques Aurevitch dans les studios de la rue François 1er. Je me souviens, il y avait Nicole Croisille. Ça me fait bizarre de dire ça. Maxime Le Forestier sur Europe 1.
Ah oui ?
Oui. Parce que je nous revois avec les guitares et tout ça, rentrer dans le studio avec Karadec et tout ça. Karadec qui n'avait pas encore connu son premier succès. Ça me ramène à toute une époque, ça.
Ouais.
Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Mesdames et messieurs, c'était une parenthèse. Enchantée. Non, ce qui m'enchante maintenant, c'est la chanson qu'on va découvrir. Jeanne Chéral, L'an 40. Jeanne Chéral, L'an 40. Mon Dieu, qu'avec humour et délicatesse, ces choses-là sont dites.
Ah, mais Jeanne Chéral, elle a le talent de traiter des sujets.
Eh oui, celui-là, c'en est un.
Celui-là, c'en est un. Elle a fait une chanson sur le clitoris qui s'appelle
non.
Petit bouton de nacre, qui est magnifique. Jeanne Chéral, j'aime beaucoup parce qu'elle est très fine dans son écriture. C'est une pianiste exceptionnelle, on l'a entendu, là, c'est elle qui joue. Et puis, j'ai une tendresse particulière pour cette génération d'auteurs-compositeurs qui ont donc la quarantaine maintenant, donc ont commencé à se faire connaître au début du siècle, et en plein début de la crise du disque.
C'est vrai.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas bénéficié de la promotion.
De la folie que ça pouvait engendrer quand il y avait des succès extraordinaires, voilà. Des tubes et tout
voilà.
Ça.
Voilà. On va entendre tout à l'heure Doremus aussi, qui est de la même génération. Et ce sont des gens pour lesquels j'ai une tendresse infinie, parce qu'ils ont, eu le courage de continuer à écrire, malgré le succès qui ne venait pas.
Ouais, c'est vrai. Enfin, ils avaient du succès, parce que il y a quand même, heureusement, dans notre pays, il y a la scène qui apporte un peu, mais c'est pareil. Quand tu fais pas, t'as pas la promo radio, enfin, c'est même plus la promo radio. C'est d'entendre les chansons à la radio.
C'est
après,
ça,
on nous voyait à la télé. Alors, je me souviens, on disait « Ah, une bonne tête !» Je pense à Claude-Michel Schönberg. Les gens étaient très étonnés de voir sa tête après avoir flirté sur le premier pas. Oui. Non pas qu'il n'était pas joli, mais il était surprenant, son visage. Bref, il ne collait pas forcément à la chanson.
Maintenant, ils sont obligés d'aller chercher le public à la fourchette à escargots, des petites scènes, puis sur des scènes plus grandes, quand c'est possible, quoi. Jeanne, j'invite les auditeurs à l'écouter plus, parce que elle a vraiment fait des chansons magnifiques.
Et puis, franchement, ce sujet, moi je me sens peut-être un peu concerné parce que je viens de fêter les 40 ans de ma femme, mais c'est vrai que c'est dit avec un humour, un voilà. recul, une élégance, quoi.
Enfin, elle est élégante.
C'est ce qu'on aime dans l'écriture. Comment tu les vois, toi, les femmes de 40 ans, toi qui as chanté Fontenay aux Roses dans ton premier album ?
Je les vois comme des jeunes.
Des gamines.
Des gamines.
Des gamines. Tu te souviens de cette époque, Fontenay aux Roses, La Rouille, Mourir pour une nuit, ton premier album ? Tu vois, quand on dit... Bon, c'est vrai que l'époque, les temps ont changé, mais... Cet album qui tombe là comme ça et où il y avait mais vraiment rien acheté quoi. Comment tu l'as vécu toi à cette époque-là? C'était pas un succès, c'était je sais pas à quoi qu'on pourrait comparer ça à une époque où il fallait se battre pour des gens auteurs-compositeurs comme toi dans un style particulier d'auteurs-compositeurs musiciens instrumentistes avec Frédéric François, Mike Brandt. Tu te rends compte, c'est ventes, quoi. C'est-à-dire, aucun de ces artistes-là n'avait effleuré ce score.
Non, c'est vrai. Moi, je l'ai vécu de façon très... je me suis aperçu 3 ans après que c'était un triomphe. Mmh. Sur le coup, j'étais content, j'avais du boulot.
Ouais.
tu vois, je trouvais ça normal.
Ouais, alors que quand même...
C'est après que le miroir des autres... Te renvoie à l'énormité de la chose.
Ouais, puis je crois même, je crois que t'as défriché la forêt vierge d'artistes qui faisaient d'énormes ventes, alors que normalement c'était Claude François et Johnny Hallyday. Il n'y avait pas d'auteur-compositeur. C'est venu après. Moustaki avait
Moustaki
vendu beaucoup
avec
le Métèque.
Il y avait quand même. C'est marrant, c'est toujours la séparation rive droite, rive gauche.
C'est ça.
Mais il y a eu des artistes rive gauche qui vendaient beaucoup de disques. Barbara.
Oui, mais c'est venu après.
Oui, non, il y avait vraiment deux méthodes. Il y avait ceux qui étaient dans Salut les copains et les
c'est
autres.
C'est ça. Ouais. Parce qu'après, on a vu les ventes de Francis, par exemple, qu'on écoutait tout à l'heure, des trucs de ventes de fous. Renaud. Souchon et Voulzy, par
oui,
moment.
Oui, bah c'est pareil, quoi. C'est les...
Moi, je me souviens de tes concerts, de la ferveur de ce public.
Oui.
Tu faisais des salles que personne n'avait jamais fait, quand même, avec une guitare et deux musiciens.
Oui.
Et c'est pas parce que les places étaient à 10 balles que les gens venaient en se disant « Tiens, il y a de la lumière, c'est chauffé, on va manger des merguez. » Non, non. Oui. Ils venaient vraiment...
Ils venaient écouter des chansons.
C'était même presque un peu une messe, quoi.
Mais c'est resté.
Bah, tant mieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit plus ça tellement, quoi.
Oh si, on est vieux, on est gâteux, on n'a pas de mémoire,
tu
mais ça doit exister. Oui.
Ou alors on ne nous dit pas tout. Ça peut arriver aussi. Oui. On se retrouve dans une seconde avec Maxime Le Forestier sur Europe 1.
Didier Barbelivien sur Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes.
Et on retrouve Maxime Le Forestier sur Europe 1 avec, et c'est son choix, Benoît Doremus. Et là, on va ouvrir un sujet. Ça s'appelle Brassens en pleine poire.
C'était un dimanche de janvier, sauf qu'on était fin mars. Il y avait de la neige à Paris. Et ça, c'est toujours beau avant que ça fonde. 10 cm sur les balcons, et ça tombait encore à gros flocons. Y avait peu de monde et plus de bagnoles, que des braves gens sur leur guibole. À Alors, j'ai mis ma tête sous mon bonnet et je suis descendu voir ça de plus près. C'était bon de laisser mes empreintes avec mes petites pinces. Pas bien profondes, parce que je suis tout mince. J'ai patiné de ma porte de Vanves jusqu'au parc Georges Brassens. Putain de Georges. Je pensais à elle. Est-ce qu'il y avait autant de neige dans le 17e? Est-ce que là-bas on batifole? Est-ce qu'elle m'aimait encore? Est-ce qu'elle était au Batignolles? Dans mes oreilles, Eminem en boucle comme tous les jours de doute. Marshall, vas-y, prête-moi ta haine. Ta détresse, c'est la mienne. Putain de Georges. Je soufflais ma buée dans les allées quand, à 20 mètres, j'ai aperçu la statue du maître illustre. Enfin, son buste, avec sa moustache de marbre. Auprès de son arbre, des gamins faisaient une bataille et la neige collait bien. Je me suis dit, tu vas voir, je vais me faire le brassin sans pleine poire. Putain de Georges. Je pensais la voir du premier coup, tous mes hivers mis bout à bout. J'en ai lancé un bon paquet, mon neveu. Je l'imaginais taper des gants avec un petit rire amoureux. Elle est partie, ma boule de rage, dans le décor. J'y avais mis tout mon cœur, l'été d'avant, au même endroit, on s'était couché sur les fleurs. Les boules suivantes, pas tellement mieux. Je me suis dit, oh, je deviens bigleux. Brassens gueulait, olé, olé. Puis y en a une qui l'a frôlé, alors il faisait le malin, mais moins. Les gosses rigolaient, elle en voulait plus, moi j'en voulais. Et avec ses yeux, s'il vous plaît. Putain de Georges. Crevant d'orgueil, j'ai canardé, zing, zong, en fermant un œil. Et sans tricher, sans m'approcher, donc digne face à l'échec. Est-ce qu'un peu, elle pensait à moi? Est-ce qu'heureuse, elle faisait avec? Putain de Georges, putain de Georges. Et puis, paf, le tir parfait, et le parc entier qui m'acclamait l'apothéose. Ose me dire que tu m'aimes plus, ose. J'ai pris mes 15 secondes de gloire, puis j'avais froid, j'en ai eu marre. Pars. T'as tout gâché, toute notre histoire, et moi, je l'ai eu le Brassens, en pleine poire.
Benoît Doremus, Brassens en pleine poire. On peut dire qu'il a de l'imagination, ce jeune homme. Là, c'est plus qu'une tranche de vie qu'il nous envoie.
Il fait souvent ça, de raconter deux histoires en même temps. C'est-à-dire, il raconte l'histoire de sa boule de neige, puis sa gonzesse qui est partie.
Ouais.
Et tout ça s'est mélangé.
Et il décale et presque, on dirait qu'il se venge sur Brassens de la fille qui est partie.
Putain de Georges.
Oui, tout d'un coup il fait un transfert, ouais. C'est drôle. Mais c'est remarquablement écrit. Hein.
Ah oui, oui.
Ah oui. Puis moi, je suis sensible à ça. C'était un dimanche de janvier, sauf qu'on était fin mars. Moi, quand ça commence comme ça, tu vois. Mais que ce soit une chanson ou un roman, ouais. Quand ça commence comme ça, je suis client.
Mais il en a plein, lui aussi, des chansons surprenantes.
Ben ouais, parce que c'est vraiment original. Enfin, j'ai jamais imaginé une chanson comme ça où un mec, il canarde la statue de Brassens.
En pensant à sa gonzesse qui l'a quittée.
Brassens et toi, c'est presque trop facile de faire le lien depuis combien d'années Brassens, t'avais chanté à Bobino en première partie, non?
Oui, en 72, mais ça faisait déjà 9 ans que j'étudiais ces chansons. Mmh. J'ai commencé à 14 ans et j'en ai 72. Donc,
on va dire ça.
Ça s'est jamais arrêté vraiment, quoi. Il y a eu des moments de pause, mais j'y suis toujours revenu parce que... Soit parce que j'avais envie, soit parce que les événements m'ont poussé, soit...
Ouais, en fait, moi, quand je t'ai entendu plusieurs fois interpréter Brassens, quelquefois dans des circonstances, mon Dieu, tellement étonnantes. Et dans ma tête, je me dis, Maxime, il aurait pu les écrire toutes.
Hélas, non. Hélas, non, mais oui. Je pense que le petit avantage que j'ai, c'est que Brassens, je l'ai découvert par les partitions.
Ouais.
Quand j'ai commencé à jouer de la guitare, j'ai appris de la guitare sur des chansons de Brassens. Je ne savais pas qui chantait.
Ouais.
J'avais jamais entendu la voix de Brassens. Et j'ai découvert ça comme ça. Donc, moi, je chante ce qui est écrit.
Ouais, toi, je sais que tu lis les mélodies, la musique, et plus que les mélodies.
Oui.
Et ils ne sont pas nombreux. On n'est pas nombreux dans la profession.
Mais c'est... C'est peut-être pour ça que j'ai pas épousé son phrasé, son la camarde
ouais, ouais,
qui
non,
ne
pas du m'a, tout.
Ça, tu vois,
oui,
c'est
oui, oui, oui.
La
non,
camarde
qui ne m'a jamais.
Tu vois,
oui, oui.
C'est les mises en place des mots. Et puis bon, j'ai tellement joué du Brassens, j'en ai
oui,
tellement chanté.
Je sais. Tu l'as tellement épousé, mis dans tes mains, dans ta voix, que il y a des moments où je me dis non mais celle-là peut-être c'est une chanson de Maxime. Tu vois quand tu
bah c'est un compliment.
Bah oui, tu vois quand on les connaît pas.
Ouais.
Et là on a le droit de faire un peu de pub parce que tu as publié en mars 21 aux éditions Stock un livre qui s'appelle Brassens et moi.
Oui. Bah ça raconte ma relation avec Brassens mais pas que, c'est l'œuvre d'abord,
ouais.
Puis un petit peu l'homme, parce que je l'ai croisé entre 72 et 79, je l'ai croisé plusieurs fois, j'étais mangé chez lui, j'ai fait des émissions de télé avec lui, j'ai fait Bobino, j'ai fait tout ça. Et puis après, j'ai été confronté à la légende, parce que une fois que Brassens est mort, je l'ai un peu oublié.
Mmh.
Et quelques années plus tard, son secrétaire, Gibraltar, est venu me voir à l'Olympia. Je l'invitais toujours. Et il est venu avec un gros livre, Brassens, poèmes et chansons. Il m'a dit, ça c'est ce que Georges souhaitait voir lui survivre. Donc j'ai feuilleté, je les connaissais presque toutes. Mmh. Et puis à la fin, il y en avait que je ne connaissais pas. Il y avait la maîtresse d'école, il y avait l'orphelin, il y avait les Pyrénées, il y avait toutes ces chansons-là. Et j'étais en tournée à cette époque-là, et tu sais, dans l'heure qui y a entre la fin de la balance et le début du concert, c'est une heure dangereuse, parce que t'as le trac, tu peux faire toutes les conneries du monde. Et là, je l'ai travaillé doucement, sauf comme j'avais 14 ans, sauf que quand j'avais 14 ans, je me servais des chansons pour apprendre la guitare. Là, je pouvais me servir de ce que je savais à la guitare pour servir les chansons.
Je comprends.
Voilà, et ça a donné ça a donné 500 concerts. En
tout
fait,
cas, là. Moi j'ai relevé, parce que ça fait des années qu'on se connaît, nous deux, et il y a un truc que vous aviez, je trouve, en commun, toi tu y as peut-être jamais pensé, c'est votre discrétion. On connaît peu de choses de la vie de Brassens, on connaît peu de choses de la vie de Maxime Le Forestier, très peu.
Oui, on connaît peu de choses de la vie de Souchon.
Oui,
on connaît
aussi
peu de choses de la vie de Cabrel. Ça, c'est les auteurs-compositeurs, parce que on passe beaucoup de temps à écrire.
Ouais.
Tu le sais que écrire, c'est ça fait des mauvais biopics.
C'est vrai.
Tu vois, c'est...
Mais c'est un beau jardin de récréation, l'écriture. Mmh. Et je me disais, c'est vrai que par exemple, ouais, t'aurais pu écrire les trompettes de la renommée. Celle-là, elle te va comme un gant.
Ah oh ben j'en ai fait un petit peu mon évangile, les trompettes de la renommée.
Ouais, tu vois.
C'est une des premières chansons de Brassens que j'ai apprises. Cette chanson m'a ouvert des tas de portes intellectuelles. Et entre autres le couplet sur le père Duval. Donc
la calotte chantante.
La calotte chantante. J'ai fait sa connaissance
à
Médiéval. Il existait, oui. Ah ben il existait et il est rentré dans la loge de Brassens. C'était un fan de Brassens et Brassens me l'a présenté.
C'est drôle.
C'était un jésuite.
Un jésuite, tu vois, comme quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai, pour revenir à notre Benoît de Rémus, je trouve qu'il a une filiation dans l'humour avec Brassens parce que, regarde, à la fin, c'est la victoire du perdant, quoi. Le mec, il te dit, oh, même pas mal, quoi.
C'est ça.
Hein?
C'est ça, oui. C'est ça. Mais c'est tout à fait Benoît, ça. Il a fait des chansons sur la dépression qui sont absolument à mourir de rire.
Toi, jamais, hein. Toi, on ne sait pas, même... T'as peu chanté de chansons d'amour où tu te dévoiles vraiment. J'ai remarqué ça dans ta carrière, dans ton écriture.
Il y en a quelques-unes.
Oui, un peu.
Il y a Restons amants,
oui.
Il y a La poupée, il y a...
La rouille, c'est autre chose.
La
c'est,
rouille,
c'est une
c'est
rupture,
un
c'est un texte de Jean-Pierre Kernoa.
C'est un texte de Kernoa. C'est vrai que je me dévoile peu. Oui.
On va appeler ça la pudeur.
Peut-être.
Question idiote à laquelle je pense. Tu te souviens de la dernière fille qui t'a dit que tu ressemblais à Jack Nicholson ?
Oh, il y a longtemps. Il y a longtemps qu'il ne me ressemble plus.
Oh, si encore, je crois.
Ah bon ? Non, c'est l'image qu'on a de lui.
Ouais, en tout cas, c'est drôle parce que moi, il y a un moment, je voyais ton image, je me disais... Tu sais que Nicholson, il passait souvent par Paris.
Ah
c'est,
oui.
C'est une ville qu'il adore, ouais. Je disais, ce serait drôle s'il se rencontrait avec Maxime tous les deux. On ne sait jamais. Ça peut arriver. Et alors là, ton prochain choix, alors pareil, je vais découvrir ça. C'est en ça que j'adore cette émission. Bon Entendeur, donc je suppose que c'est un groupe.
C'est un groupe, oui.
Voilà, ça s'appelle Le Temps est bon.
Le Temps est bon. Alors, ce n'est pas une chanson nouvelle. C'est une chanson qui doit avoir une cinquantaine d'années.
Et qui a été reproduite.
Oui, qui était pour un film au Québec. Et elle a été reprise par ce groupe. Et à chaque fois que je l'écoute, je me sens bien.
Oui, mais elle a un petit... voire un gros parfum des années 70. Mais
tout
moi,
à fait. Oui.
Moi, je vois ça dans le texte. Puisque volontairement, je n'ai pas cherché à l'écouter. On l'entend maintenant.
Magnifique mélodie en plus.
Je suis à eux.
C'est doux et c'est bon comme une chanson populaire. C'est vrai qu'on se laisse bercer, là.
Tout à fait, oui.
Là, c'est... ça glisse.
On n'est pas agressé par rien.
Non, tu vois, on a l'impression qu'on les connaît depuis toujours. C'est un genre de... Bon, l'histoire, c'est un Jules et Jim à la mode québécoise.
Fait, oui.
Et moi, quand j'ai lu le texte, je ne sais pas si tu as vu ce film, ça m'a rappelé un film que j'ai adoré quand j'étais adolescent, un film d'Édouard Molinaro qui s'appelait La Liberté en croupe, avec un comédien que j'adore, qui est Bernard Lecoq. Tu vois qui est Bernard Lecoq ? C'est un type, il n'y a pas toujours des premiers rôles, mais c'est un comédien, comme dirait Jean Rochefort, délicieux. Et Jean Rochefort, il est dans le film aussi. Enfin bref, c'était une parenthèse. Bernard Lecoq, ouais, je m'en lasse pas de ce monsieur, moi. Mais pour en venir à ce titre, quand même, c'est évident, hein ? Il y a des chansons comme ça, ça nous fait du bien tout de suite.
Tout à fait, oui. Et c'est marrant, ce groupe Bon Entendeur, je ne les connais pas, hein, je ne sais pas qui c'est, mais ils m'ont touché le cœur.
Ouais, puis elle a vraiment ce parfum d'histoire des années 70 où on était cool. Où
tout à fait.
On se laissait glisser,
tout
non ?
Tout à fait, mais je ne me rappelle plus pour quel film elle a été écrite, cette chanson. Elle a été écrite pour un film.
Oui, ah, t'as raison. C'est un long métrage qui s'appelait Les Mâles de Gilles Carle.
Ah bah voilà, Gilles Carle. Oui.
Et tu l'as vu ce film ? Parce que
oui.
Moi, je l'ai pas vu. Tu vois, moi, ça me faisait penser à Molinaro.
Oui, je l'ai vu.
Mais c'est vrai que, bon, on va pas pleurer sur nos madeleines de Proust. Faut pas déconner, mais...
Non, mais là, dans les 5 chansons que j'ai choisies, il y en a quand même 4 qui ont moins de 5 ans.
Ouais, c'est vrai. Mais je pense que on change pas les rayures du zèbre. Moi, tu as toujours dans tes choix d'abord des choses qui te ressemblent heureusement et des choses qui auraient pu être écrites avant ou qui auraient pu être écrites l'année prochaine.
Voilà.
Tu vois ?
Je préfère la deuxième fois.
Et moi, j'aime ça.
Ouais.
J'aime ça. Je l'ai dit en début d'émission. J'aime tes choix. Bon, en dehors de tes choix, il faut quand même que je rappelle à nos auditeurs adorés, parce que moi je les adore, ces auditeurs-là, que Maxime Le Forestier joue toujours de la guitare, il est bien vivant. Il va chanter à Pleyel, le monsieur que j'ai
absolument,
en face de
oui.
moi, le 1er décembre. Venez nombreuses et nombreux. moi j'y serai. Ah, je te promets que j'y serai même. Oui, toi, ce serait bien que tu viennes. Tu vois, quitte à m'asseoir sur les marches s'il n'y a plus de place et tout ça. Je l'ai déjà fait. Je saurais le refaire. Mais c'est vrai que ça va être pour tous les gens qui t'aiment, ça va être un très bon moment de te retrouver dans cette salle qui au départ me semblait. Je ne sais pas, au début, moi, j'allais écouter des copains chanteurs, j'avais peur. Et puis finalement, je suis allé voir Christophe un jour chanter à Pleyel. Et c'est une très, très jolie salle, très agréable
oui, et
pour
surtout,
chanter.
Surtout une acoustique absolument parfaite.
Voilà, c'est ça bien. Qui m'avait séduit. Voilà, c'est donc le 1er décembre.
Ouais.
C'est le jour de la Sainte Florence.
Ah oh ben alors ça va.
Tu vois, tu ne savais pas
Non, je ne savais pas. Le calendrier des saints, je ne suis pas très au courant, mais...
Ma première fiancée, quand j'étais au lycée Chaptal, elle s'appelait Florence. Et on écoutait La Rouille ensemble, on se disait, mon Dieu, pourvu que ça ne nous arrive jamais, ce truc-là.
Et ça vous est arrivé.
Et ça finit par nous arriver.
Contre La Rouille, il n'y a rien à faire.
Il n'y a rien à faire, l'habitude nous joue des tours. Nous qui pensions que notre amour avait une santé de fer. Tu vas la chanter ?
Non.
Pourquoi ? Fais pas ça, je vais monter sur scène pour la faire. Je vais dire, il l'a pas chanté. Je vais te la massacrer encore une fois. Tu sais que je la joue hors mesure, hors
bah,
tout.
Toi, tu joues toujours hors mesure.
Oui, moi, c'est ma spécialité.
T'as jamais su compter, mais c'est très bien. Hein. Non, elle est pas dans le tour. Là, bah, attends, je vais peut-être la mettre.
Oh, il est. On va être. Moi, je vais. Comment je vais former un gang là, rouille, aux 3 premiers rangs. Tu pourras pas t'en sortir, mon garçon.
Bon.
En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Et j'invite tous les auditeurs, tous nos auditeurs, à aller te retrouver ce 1er décembre à Pleyel. On va passer un bon moment. Tous ensemble, comme avant.
Didier Barbelivien sur Europe 1. Dis-moi ce que tu chantes.
Mesdames, Messieurs, ont participé avec moi à cette émission par par ordre d'apparition, Maryse Jacquet, Benoît Valentin, Rémi Duprat et bien sûr le générique de René Aubry que je vous laisse déguster quelques instants encore. On se retrouve dimanche prochain avec un nouvel invité dans Dis-moi ce que tu chantes. En attendant, on retrouve mes préférés, Mathieu Noël et Stéphane Bern.
Salut Didier, à dimanche prochain.